Les colloques du Collège de France.
Merci Philippe, merci à ceux qui ont organisé ce colloque du futur, et on m'a demandé de parler du passé. Donc il y a peut-être contradiction, mais j'essaierai de sortir des leçons du passé pour essayer de construire ensuite le futur. Donc je ferai tout d'abord un historique, puis ensuite une analyse de cette histoire pour en tirer quelques leçons. Alors, je crois que c'est là que ça se passe. L'hôpital a été créé, l'hôpital, la charité, l'hôtel Dieu, les hospices, tout ceci a été créé depuis le XIIe siècle, en fait pour héberger tous ceux qui étaient miséreux, mendiants, exclus, pèlerins, et étaient tenus par des religieux. Et les fonds venaient de donations. Et vous voyez les hospices de Beaune, par exemple, assez riches, puisque les donations leur avaient donné beaucoup de vignobles. Et ce serait intéressant pour vous de visiter les hospices de Beaune pour voir comment se passaient ces hospices, hôpitaux, charités et autres durant ce temps. En fait, tout a tourné au moment de la Révolution. À la Révolution, on a considéré qu'il fallait libérer ces personnes qui étaient hébergées, internées. Tout ceci parce qu'on chassait ainsi les religieux. Et surtout, on allait confisquer les biens, ce qui était important à l'époque. Donc, l'hôpital a été supprimé en 1793. Quand le directoire est revenu en 1796, il a fait en sorte que l'hôpital revive, mais cette fois-ci avec une gouvernance communale. Donc, c'était présidé par le maire et on recevait encore tous ces miséreux, mendiants et exclus. Il n'y a eu que 5 lois, même 4 lois, jusqu'à la loi de Bré-Dossé, 1958. Une première loi, donc en 1796, pour remettre l'hôpital d'aplomb. Ensuite, en 1838, on a dit que les religieux étaient là pour gérer cet hôpital, et on a créé l'asile pour les aliénés. En 1851, on a fait en sorte que l'hôpital devenait un établissement public autonome, ce qu'on verra que c'est important pour le futur. Et puis sont survenues 2 lois fondamentales, je vais plus les détailler. La loi du 21 décembre 1941, qui a structuré l'hôpital, et l'ordonnance du 30 décembre 1958, c'est-à-dire la création du CHU, l'histoire que vous m'avez demandé. En fait, il y avait un grand changement. La médecine était passée d'une médecine compassionnelle à une médecine efficace. Ce qui a frappé les esprits, c'est un enfant qui était traité à l'hôpital de l'Institut Pasteur pour une méningite à streptocoque, qui a reçu des sulfamides et qui a guéri. C'est la première fois qu'on a vu une guérison de méningite à streptocoque. Puis, on savait que la pénicilline, qui était inventée par Fleming en 1928, devenait en fin de compte disponible, et même il y avait une production industrielle en 1940 de pénicilline. On peut suivre ensuite la streptomycine en 1943, qui guérit la tuberculose, la cortisone en 1948, en 1950, la cyclobactopurine, qui est le premier traitement donc antimitotique. On voit que, tout d'un coup, la médecine change complètement par l'innovation, en fin de compte, médicale. Et c'est ainsi que on a, en 1941, Serge Huard a émis cette loi qu'on appelait charte hospitalière. En fait, elle était déjà présente en 1939, mais juste avant la guerre, on n'a pas pu donc promulguer la loi. Cette loi de 1941 construit l'hôpital, change totalement la structure de l'hôpital. On n'est plus là pour héberger, on n'est plus là pour s'occuper des miséreux. En fait, on crée un hôpital avec une commission d'administration qui est présidée par le maire de la commune. Il y a un directeur qui exécute donc toutes les décisions de la commission d'administration, mais surtout, il est ouvert à toute la population. Autrefois, il n'y avait que les miséreux. Les gens plus riches, plus aisés, étaient suivis à domicile. Il est structuré par des services. Les médecins sont rémunérés, auparavant, ils étaient tous bénévoles. Et la ressource de l'hôpital se fait par le prix de journée. L'assurance maladie a été ensuite créée en 1945. Et l'Institut national d'hygiène a été créé en même temps. L'Institut national d'hygiène servira ensuite de prémices ou de précurseurs de l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut de recherche en santé. Donc on voit que passer d'un hôpital qui s'occupait des miséreux, on a un hôpital qui est structuré grâce et par et à cause donc de l'avancée médicale. En fait, ensuite, excusez-moi pour les diapositives, elles ne sont pas bien formatées par rapport à mon propre ordinateur. Donc, il y a ensuite, en 1958, la loi Debré-Dossé, cette loi nouvelle qui, grâce à toutes ces innovations, toutes ces avancées médicales, a fait en sorte qu'on crée des centres hospitaliers et universitaires afin de pouvoir mettre ensemble le soin, la recherche et l'enseignement, comme l'a dit Philippe auparavant. Donc il y a une hiérarchie des hôpitaux, les CHU, les centres hospitaliers universitaires, et les hôpitaux de proximité. Il y a une triple fonction de soins d'enseignement et de recherche, et les médecins devaient être présents ou sont présents à temps plein, ce qui a créé une vive réaction du corps médical, vous pouvez vous en douter. Et ce n'est qu'en fait, compte 6 ans plus tard, qu'a été créé l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut National de Recherche en Médicale. Et il y avait 27 unités en 1964 qui étaient dans les hôpitaux et dirigées par des chefs de service hospitaliers pour relier vraiment la recherche à l'hôpital. Et par contre, quand on regarde, il y avait 5 lois, vous avez vu tout à l'heure, de 1796 à 1958. Par contre, depuis 1958 à maintenant, il y a 17 lois. 17 lois et ordonnances, et je pourrais même dire 41 ministres de la Santé. En fait, je vais vous les citer, parce que vous allez voir cette avancée progressive entre 70 et 91, on a fait des plans hospitaliers, très hospitalo-centristes, modulés 17 fois. Entre 91, 99, 2006, on s'est occupé du schéma régional d'organisation sanitaire, 1, 2 et 3. En 96, on crée les agences régionales d'hospitalisation. En 2002, on s'occupe du droit des malades et on institue les 35 heures hebdomadaires de travail qui, en fait, ont perturbé beaucoup l'hôpital. En 2009, on admet que c'est maintenant un vrai service public, on donne les pouvoirs aux directeurs, on crée les agences régionales de santé, on s'occupe du statut des hôpitaux. En 2011, le schéma régional d'organisation des soins. En 2016, le groupement hospitalier des territoires. En 2018, le groupement régional de santé. En 2020, redonner confiance, on verra pourquoi. En 2022, le Ségur de la Santé, où on rebase complètement, en fin de compte, l'hôpital, qui était un peu essoufflé. Et donc, on lui donne 7,6 milliards annuels et 19 milliards d'investissements. Donc, vous voyez qu'il y a 17 lois en peu de temps, de 70 à aujourd'hui. En fait, ces 17 lois et ordonnances de réforme hospitalière, en fait, sous cette Ségur République, n'ont pas été, en fin de compte, dues à une influence politique. N'a pas été non plus, en fin de compte, par des originalités ou des changements structurels importants. C'était toujours la même chose, moderniser, coopérer, s'occuper des territoires. L'hôpital est devenu progressivement, en fin de compte, une entreprise. Et on parle progressivement de parts de marché, d'activités, de dépenses. L'État contrôle de plus en plus l'hôpital, avec des agences régionales d'hospitalisation, des agences régionales de santé, mais on laisse une certaine autonomie à l'hôpital. Et quand on regarde d'habitude dans toute autre structure, c'est le financeur qui dirige. Là, le financeur, c'est l'assurance maladie. Le financeur n'a aucun regard sur l'hôpital. Aucun. Il prend 50% de ce qu'il reçoit dans l'assurance maladie et le transfère au ministère, à la Direction générale de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, qui ensuite reverse aux ARS, qui ensuite reverse aux hôpitaux. Donc, le financeur lui-même, l'assurance maladie, n'a aucun regard sur ce sujet. En fait, on se dit, il y a 17 lois, il y a donc un certain tâtonnement, notamment, on le verra, dans la gouvernance, dans les financements des structures, mais donc, pourquoi y a-t-il ces différents changements progressifs? Pourquoi a-t-on eu, sous la Ve République, 41 ministres et 17 lois? La première question, c'est de se dire, c'est parce qu'on a su s'adapter à l'environnement qui a dû changer. On a dû avoir un besoin d'adaptation, parce que faire 17 lois, il faut vraiment le vouloir. En fait, quand on regarde, il y a eu deux événements importants qui ont été un événement aigu qui était le Bataclan, le terrorisme, et un événement beaucoup plus à long terme qui était le Covid, eh bien, il n'y a pas eu de loi pour ça. On s'est adapté rapidement, efficacement, mais sans aucune loi nouvelle. Donc, ce n'est pas vraiment une adaptation à un événement extérieur. Donc, on peut se poser en fin de compte, est-ce que l'hôpital a su s'adapter ? Oui, l'hôpital a su s'adapter. Puisqu'on est passé du miséreux au malade, puisqu'on est passé de l'hébergement de soins, en fin de compte, à des soins de malades et à la santé publique, puisqu'on est passé de séjours longs à séjours moyens, séjours aigus, hospitalisation à domicile, et même d'autres traitements qui sont un peu plus séparés. Une séparation des personnes âgées, notamment les personnes qui se sont mises en EHPAD. On a mis un peu de côté aussi la psychiatrie dans certains centres. On a fait une hiérarchie territoriale des CHU par rapport aux hôpitaux généraux, aux hôpitaux de proximité. Donc on est devenu plus professionnel, on est devenu plus spécialisé, avec un plateau technique performant, tout en gardant une permanence de soins avec les urgences. Et on voit qu'on a eu une baisse de lits importante, donc une adaptation progressive, de 23% entre 2000 et 2020. Et on a eu un virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a fait de plus en plus de médecine ambulatoire, de chirurgie ambulatoire, mais pas aussi vite qu'ailleurs que nos voisins. Quand j'étais en 2010 à la Haute Autorité de Santé, on était en France avec 20% simplement de chirurgie ambulatoire, alors que la Grande-Bretagne était à 80% de chirurgie ambulatoire parmi toutes les chirurgies. Donc on a pris du temps, on a pris du temps pour installer les scanners, pour installer les IRM, pour installer le cyclotron. On a toujours pris beaucoup plus de temps que nos voisins. Et quand on regarde la courbe, là, en haut, c'est la courbe de ce qui est, en fin de compte, ambulatoire, par rapport à la courbe de ce qui est hospitalisation complète, en bas, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dent de scie. Il y a une seule dent de scie, on la voit, elle est grande, c'est le Covid. Et durant le Covid, on a baissé l'activité, très nettement, à la fois ambulatoire et à la fois d'hospitalisation complète. Mais on ne voit pas les lois, 17 lois, on ne voit pas, ce qu'a pu transformer, ces lois et ce qui a pu être transformé. Donc aussi, on continue, on peut se poser des questions. Ces multiples lois, en fin de compte, ne semble pas tellement dû à une adaptation, parce qu'elle s'est fait progressivement, mais est-ce que ce n'est pas le reflet d'une instabilité ? Instabilité de la gouvernance, instabilité des finances, instabilité des structures. Et à chaque fois, on voit qu'il y a une vision administrative et une vision médicale. Gouvernance administrative ou gouvernance médicale. Gestion, en fait, avec une vision administrative comptable ou médicale. Et pareil pour les organisations. Et donc, je vais les prendre l'une après l'autre, à la fois la gouvernance, les finances et les structures. Quand on regarde l'instabilité de gouvernance, donc, il y avait toujours un système administratif qui s'est appelé d'abord commission administrative, puis conseil d'administration, et maintenant ça s'appelle conseil de surveillance. On a une partie médicale, notamment le conseil médical, et une direction, qui est la direction, en fin de compte, d'administration, entre guillemets. En 1941, le directeur exécute les décisions de la commission administrative. En 1970, le directeur a une compétence générale de gestion. En 1991, le conseil médical d'établissement se trouve à côté du conseil d'administration. En 2005, le conseil exécutif est présidé par le directeur et il a autour de lui des administrateurs, le conseil médical et les pôles d'activité. En 2009, là, c'est la loi de Bachelot et Sarkozy, c'était de dire que le directeur a pratiquement tous les pouvoirs. Il a de très larges pouvoirs. Et il a autour de lui le conseil médical, il a autour de lui le conseil de surveillance, il a un directoire. Et puis en 2020, le Ségur de la Santé, le directeur et le président de conseil médical se retrouvent à égalité pour pouvoir nommer des chefs de service. Donc on voit qu'il y a là un va-et-vient un peu entre ces deux instances principales qui sont conseil médical et direction. Mais en fait, si on prend, et là je vais m'attarder sur cette slide, si on prend n'importe quel organisme autonome, indépendant, existant, surtout public, on se rend compte qu'il y a toujours un triangle. Un triangle avec un board qui décide, fait la stratégie, suit le budget. On a une administration qui aide à la contribution, évalue, fait en sorte que analyse, propose des scénarios et implémente les décisions. Et puis on a une partie opérationnelle, qui fait l'activité de cet organisme. Prenons le vote hier des mairies. Mais vous avez bien un conseil municipal qui est en haut, on a bien une administration avec un directeur, et on a bien des comités et des commissions. Pareil pour les régions. On a une commission permanente. Qu'est-ce qui passe ? Ça tourne tout seul. On a bien, au niveau des régions, on a bien une commission permanente en haut, on a une administration, on a bien aussi des comités et sections. La haute autorité de santé, on a un collège qui s'occupe du board, on a une administration avec un directeur, et on a des commissions. Partout, on a ce genre de triangle. Et en fait, quand on regarde au niveau des hôpitaux, le haut est un peu inexistant. Regardez au niveau des hôpitaux, le haut, c'est en fait un conseil de surveillance depuis 2009, et ce sont des représentants, et qui n'ont rien à voir avec en fait, contre l'activité elle-même. Ce sont en fait des personnes qui se réunissent 4 fois par an. C'est très politique, parce que c'est dirigé par le maire, il y a toujours une tendance de la ville sur cet hôpital. Et il est distant, en fin de compte, distant de cette base qu'est l'administration et les pôles. Si bien que s'il est peu existant, il y a au niveau, le triangle est réuni, enfin, se résume à un seul côté du triangle. Et de ce fait-là, il y a une recherche entre administration et, en fin de compte, l'activité médicale, une recherche de savoir qui prend un peu, en fin de compte, les initiatives, puisque le haut n'existe pratiquement pas. Et donc c'est là, je crois, un grand défaut actuellement de l'hôpital, et si on regarde le haut, il devrait y avoir ce qui est représenté par l'activité, c'est-à-dire qu'on est le soin, la formation et surtout la recherche. Donc il y a là un sujet où on est plutôt, en fin de compte, une ligne plutôt qu'un triangle. Si je regarde les financements des hôpitaux, en fait, on est parti d'un prix de journée, ça a duré pendant plus de 40 ans, hein, le prix de journée, et en 1973, vous avez vu qu'il y a le premier choc pétrolier, en 1978, le deuxième choc pétrolier, et là, comme l'assurance maladie, en fin de compte, avait des fonds qui venaient des salariés et qui avaient moins de salariés, tout d'un coup, en 1979, on s'est aperçu qu'il y avait moins de recettes que de dépenses, alors qu'auparavant, il y a toujours plus de recettes que de dépenses. Madame Veil, tout d'un coup, a été surprise, c'est-à-dire, mais où sont les comptes ? Il n'y avait pas de compte du tout de l'assurance maladie. Elle a fait appel à Dominique Coudreau, il a fallu faire des comptes, comprendre ce qui se passait, et le moyen qu'on a pris pour pouvoir endiguer cette supériorité des recettes par rapport aux dépenses a été de créer une dotation globale. C'est un moyen simple pour pouvoir dire aux hôpitaux, vous dépensez ça et pas plus. Donc on a donné à chaque hôpital, en fin de compte, une dotation globale. Ce qui a permis de garder des finances stables. Mais l'hôpital, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a diminué le volume, il a diminué son activité, il était plus tranquille. En fin de compte, on recevait la même somme, et en fin de compte, on pouvait faire moins d'activité, donc on était plus au repos. On s'est dit, il faut réaugmenter l'activité. Comment réaugmenter l'activité ? Comment faire en sorte qu'on puisse avoir un moyen de faire une tarification à l'activité ? Donc, on s'occupait du prix et du volume. C'est-à-dire, et chaque année, on voyait le volume, et on diminuait le prix de chaque activité. Alors, il a fallu faire, en fin de compte, des tarifs pour chaque type d'activité, chaque maladie. Et en fait, chaque année, on baissait le prix de l'activité, ce qui obligeait l'hôpital à augmenter son volume pour pouvoir compenser s'il voulait avoir les mêmes finances. Et ceci s'est fait une année, deux années, trois années, quatre années. Ça a commencé, vous le voyez, en 2004. Et en 2018, tous les hôpitaux étaient épuisés, déprimés, et surtout en déficit. En effet, on ne pouvait pas toujours demander une augmentation de volume, une augmentation d'activité, une augmentation d'activité permanente. Il y avait une limite à ce propos. Si bien que, en fait, on a cherché à pouvoir compenser ceci. Ça a été compensé entre 2018 et 2022, mais il y a eu une baisse d'activité due au Covid. Mais ça, c'était bénéfique. On a vu tout à l'heure la dent de scie. Et donc, après le Covid, on s'est aperçu que, d'une part, les hôpitaux étaient, enfin, ne pouvaient plus suivre. On a donné aux hôpitaux généraux une garantie de dotation, ça c'est bien. Et pour les CHU, on a fait le Ségur de la santé, où on a fait un rebasage. Et les ressources, alors là, c'est un peu de tarification à l'activité, un peu de forfait, un peu sur la population, un peu d'épisodes, un peu de machin, un peu de trucs, un peu. Et donc, on ne sait plus, pour les acteurs de la santé, ceux qui travaillent, on ne sait plus où est la boussole, où est le phare. C'est-à-dire qu'on a un peu de ci, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de machin, et on est un peu perdu aujourd'hui. Voilà, c'est pour les finances. Je continue pour les structures. C'était les trois points qui étaient, montraient une certaine instabilité. On est parti des services, 1941. On a gardé ces services pendant longtemps. Et puis sont arrivées les unités fonctionnelles. On a rajouté ceci au sein des services. Et puis sont venus les pôles. Et c'est là où, comme on peut voir, l'administration a essayé de prendre un peu plus sur la partie médicale, parce que petit à petit, c'est le directeur qui, en fait, nomme les chefs de pôle et fait des contrats de pôle. Donc on voit que, puisqu'il manque le bord, le sommet du triangle, on voit que petit à petit, l'un et l'autre jouent pour prendre un peu de part sur l'autre. Et puis, ceci, en fin de compte, a entraîné une certaine, avec la fatigue, avec tout ça, on est revenu en arrière et on revient en service. Et le service, enfin, le chef de service, est nommé conjointement par le directeur et par l'administration et par le conseil médical. Donc on voit qu'il y a là un va-et-vient. Et en plus, alors là je tiens à souligner un point, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que veut dire un service, dans le sens de sa discipline. On a les services de cardiologie, de néphrologie, de gastro-entérologie, ça d'accord, mais on a aussi les services de cause de maladie, les services d'infectiologie, les services de génétique, les services d'immunopathologie, les services de cancérologie. Quand on a un cancer du poumon, est-ce qu'on va plutôt dans un service de pneumologie ou un service de cancérologie, etc. Donc on peut se poser la question, et en plus, on a des services maintenant de technicité, c'est-à-dire la transplantation, la radiologie interventionnelle, qui se surajoutent. Et donc on a des doublons, on a des concurrences, on a, même au niveau disciplinaire, il y a une réflexion à mener, je pense, aujourd'hui. Donc, lorsqu'on regarde ces trois éléments, on s'aperçoit qu'il y a plus d'administration, on a plus de régulation, plus de régionalisation, mais aussi on a plus de contrôle et d'encadrement et plus de freins et de contraintes. Et on peut se poser la question, bon, c'est la question principale, c'est là où on arrive un peu au bout, c'est quel est le moteur du changement? Pourquoi c'est un changement? Pourquoi est-ce qu'on se modifie? Or, on a vu que l'hôpital a été créé parce qu'il y avait un grand changement, c'était l'avancée médicale. Et donc, c'est parce que le moteur du changement, en fait, aujourd'hui, excusez-moi, c'est mal centré, mais c'est l'avancée médicale. C'est cela qui change un hôpital. Et si je prends quelques exemples, rien que pour vous voir, en fait, la tuberculose, il y avait 42 000 morts avec la streptomycine, fini. La poliomyélite avec le vaccin, c'est fini. Et dans l'un et l'autre cas, on n'a pas changé les structures. Pour ce qui est de la tuberculose, on a gardé les phtisiologues pendant très longtemps, les sanatoriums pendant très longtemps. Pour la poliomyélite, on a des établissements de réhabilitation ici et là pendant longtemps, appartenant par exemple à la santé publique, elle se trouve à droite et à gauche dans la France. Si on prend le sida, il a été traité de façon ambulatoire. On n'a pas changé les services, on n'a pas changé les médecins. Quand on prend la leucémie myéloïde chronique, qui était à 50% des greffes de moelle, du jour au lendemain, on a un médicament qui est 1 compris par jour et on guérit ces malades. Plus de greffe de moelle. Donc on doit réduire de 50%. On n'a rien changé. Quand on regarde l'hépatite C, 400 000 personnes traitées pour l'hépatite C dans les hôpitaux de France. Eh bien, un médicament du jour au lendemain, Sovaldi, en fait, compte, on n'a pas changé le service des pathologies, on n'a pas changé la transplantation hépatique pour l'occasion. Le mélanome, 18 000 cas, on a l'immunothérapie, on n'a rien changé. Quand on regarde la mucoviscidose aujourd'hui qui vient d'être traitée par le CAF-TRIO, on n'a pas changé du tout. On se rend compte le nombre de greffes de poumons et tout. Donc il y a là un sujet, c'est-à-dire que l'avancée technologique, l'avancée médicale devrait être restructurante totalement, comme on l'a fait tout à fait au début dans la loi Debré, et ça ne restructure pas grand-chose. Donc on peut se poser des questions. On est passé de l'esprit en fait, de découverte, d'esprit d'application pour essayer de traiter un peu plus les patients, en fin de compte, à un autre esprit qui est celui d'hospitalocentrisme, de comptabilité, et qui n'a pratiquement rien à voir avec la guérison des patients. Donc il faut essayer de comprendre que l'innovation, c'est la force structurante de l'hôpital. Inciter, prévoir, s'adapter, ne pas subir les changements, mais être acteur de la recherche, avoir les bénéfices des innovations dans l'hôpital, on ne s'en sert pas, et instaurer une ambiance créatrice dans l'hôpital, inciter l'innovation. Et pour ça, il faut avoir plus de prospectives reliées à l'innovation, mais qui connaît, en fin de compte, la prochaine innovation, et ne pas être surpris par le fait qu'elle arrive, comme Sol l'a dit, comme ça. Mais qui est ça ? Qui connaît ça ? Ce sont les chercheurs, à la fois les chercheurs fondamentaux et les chercheurs cliniciens. Il n'y a pas de relation vraiment entre l'un et l'autre. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas perdu l'esprit de la loi de 1958 ? On n'a plus, en fin de compte, d'innovation intégrée au sein de l'hôpital. On a certes instauré les CHU, ça c'était la loi Debré, mais ensuite, on a fait en sorte que la recherche soit séparée, soit par l'université, soit par l'INSERM, mais en fin de compte, on la voit un peu à côté. Si bien que l'hôpital a essayé de reprendre des petits morceaux, et des petits morceaux par des projets, le PHRC, par les directions de recherche clinique, les DRC, les CIC, qui sont des centres d'investigation clinique, les URC, les tiers-lieux, les Carnot, les machins, on en rajoute, pour essayer de rattraper par rustine, en fin de compte, ce qui nous a manqué. Alors, il y a eu tout d'un coup, en fin de compte, c'était les 6 CHU en 2000, c'était, il y a eu 6 CHU qui ont été créés, c'était du temps de Sarkozy. C'était 6 instituts hospitaliers universitaires qui mettaient de la recherche au sein de l'hôpital. Puis il y en a eu encore 12 en 2022. Mais ces instituts hospitaliers universitaires, sont certes dans l'hôpital, mais à côté de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils sont localisés dans l'hôpital, mais les directions sont différentes, les stratégies sont différentes, et les points de vue sont différents. Donc, on est passé à côté de cette restructuration par la force technologique. Je vais prendre un exemple sur l'expérience chinoise. Dans l'hôpital Ruijin, en Chine, il y avait, après la révolution culturelle, ils ont repris un hôpital tel que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est un hôpital donc général, comme on fait. Et puis ensuite de quoi ? Ils se sont dit, non, il faut séparer l'infectieux, c'est dangereux, ils ont mis un bâtiment nouveau d'infectieux. Ensuite, ils ont dit, la biologie, il faut créer un bâtiment, la biologie qui soit à la fois pour les patients et à la fois de recherche. Ils ont créé 10 étages. Au rez-de-chaussée, c'est plutôt pour les patients. Au dernier étage, c'est la recherche fondamentale en biologie. Mais tout ça, ça se relie dans le même hôpital. Mais ensuite, ils ont dit, non, virage ambulatoire. Virage ambulatoire, on a créé un bâtiment de 13 étages, avec un étage cardio, un étage pneumo, etc., etc. 5000 personnes viennent le matin, 5000 personnes sortent le soir, il y a 26 ascenseurs, 3 escalators. Puis on dit non, en fin de compte, le futur, c'est la recherche. Et donc, ils ont construit depuis maintenant 7-8 ans un bâtiment de 400 lits de recherche clinique, 400 lits de recherche clinique. Et c'est cet bâtiment qui irrigue tout l'hôpital, qui donne, en fait, compte la force de l'hôpital. Donc, vous voyez que tous les 10 ans, ils ont changé, même tous les 8 ans, ils ont changé complètement de structure. L'avancée médicale a fait que c'était le moteur de l'hôpital. Et nous, on n'a pas tellement ce genre de choses, ce genre de réaction. En fait, quel est le résultat recherché ? L'objectif, il y a un objectif qui est intrinsèque, qui est celui de guérir, on est bien d'accord, et de prendre soin. Et puis il y a un objectif qui est devenu extrinsèque, qui est faire du volume au moindre prix. Et ça, on est passé, en fin de compte, à côté de nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est bien améliorer la santé du citoyen en lui apportant l'innovation. Des maladies incurables, on en fait des maladies chroniques. De ce qui se fait à l'hôpital, on essaie de le passer ensuite dans la ville et au domicile. Donc le but, c'est le résultat clinique pour le malade. Et pour aller de l'avant, Cédric Villani, qui fait partie de l'Académie des sciences, dit fortement qu'il faut toujours une commensurabilité. Vous ne pouvez pas peser un sac de pommes de terre avec des mètres. Vous ne pouvez pas mesurer une fenêtre avec des kilos. Il faut que ce soit la même mesure entre le moyen et l'objectif, le moyen et l'intention. En fait, on a une vision médicale, une intention médicale, qui est donc l'innovation pour pouvoir guérir plus de patients. Puis on a une vision comptable qui est celle de voir un prix-volume pour obtenir un équilibre financier. On joue sur le prix, on joue sur le volume. Mais on marche en crabe si jamais on se sert d'un moyen pour faire l'objectif de l'autre. Et on peut difficilement guérir avec du prix-volume. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on est basé sur le prix-volume et on cherche à guérir les patients. Et donc, on a peut-être un nouveau moyen de pouvoir corréler le fait qu'on veut guérir les patients, les mieux soigner, avec ce système qui s'appelle alors, les mesures de résultats cliniques et les mesures ressenties par le patient, en fin de compte, le résultat, les mesures de résultats rapportées par le patient. C'est ce qu'on appelle les CROMS et les PROMS, c'est-à-dire les Clinical Reported Outcome Measures et les Patient Reported Outcome Measures. Et en fait, il faut le faire pour chaque maladie. On l'a bien fait d'ailleurs pour pouvoir tarifer, on le fait pour chaque type de maladie. Et mais dans cette perspective, il faut qu'on ait un lien très fort avec les spécialités. Et ceci a débuté, il existe déjà des PROMS et des CROMS, il existe déjà des mesures de résultats cliniques et des mesures apportées par le patient. Et il faut toujours considérer qu'il y a, en fin de compte, un résultat final. Et c'est donc avant l'hôpital, pendant l'hôpital et après l'hôpital, ça s'appelle le parcours de soins. Donc je terminerai en disant, voilà les leçons qu'on a pu apprendre durant ce temps. Je pense qu'il faut comprendre que l'objectif de l'hôpital, c'est le soin, la santé du patient citoyen. Il faut comprendre que l'innovation, c'est bien le moteur structurant de l'hôpital. C'est lui qui doit permettre le changement. Et il faut totalement intégrer, en fin de compte, l'innovation et la recherche. Troisièmement, la commensurabilité est importante. On ne peut pas avoir un objectif sous une forme et des moyens sous une autre forme. La valeur, soit le résultat clinique, est ressenti. C'est-à-dire cela que l'on va chercher. C'est ce que le patient ressent et qu'on lui dit qu'il est guéri ou soigné. Bien respecter ce triangle de la gouvernance. Et notamment, on a vu que dans l'hôpital, il manque le sommet du triangle. En tout cas, il est assez faible. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une bonne coopération entre le soin, la recherche et l'enseignement. C'est ce qui devrait être le sommet, en fin de compte, de notre triangle. Je terminerai en disant que l'hôpital n'a pas encore trouvé ni sa stabilité, ni sa finalité, avec des réformes successives de gouvernance, d'équilibre financier et de structure. Et déjà arrive le grand chamboulement par le trio numérique, intelligence artificielle et robots. Tout va être bouleversé. L'administration, totalement bouleversée par l'IA. L'imagerie, j'en parle pas. La biologie, la pharmacie, les spécialités médicales, les relations ville-hôpital-domicile. Tout va être chamboulé. En fait, quel sera l'hôpital du futur? Je pense que Nicolas Revel va nous le dire.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.